Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Grand Main Vous Fasse. Nous nageons tous dans un océan de distractions, avec pour conséquence une attention dévorée par des requins nommés smartphones, tablettes, réseaux sociaux, jeux vidéo, séries télé. Nous avons tous du mal à rester attentifs, concentrés sur une tâche, ou alors nous nous berçons de l'illusion d'être multitâche. Lire en jetant un coup d'œil sur son téléphone toutes les 5 minutes, regarder un film à la télé en consultant les réseaux sociaux, faire ses devoirs en visionnant des vidéos sur TikTok ou Snapchat, des pâtisseries alléchantes pour le cerveau de nos enfants et de nos adolescents. Mais nous autres adultes ne sommes pas sans reproche en la matière. Que celui ou celle qui n'a jamais regardé ses SMS en conduisant, en faisant du vélo ou en marchant dans la rue me jette la première pierre. Nos expertes vous délivreront des outils concrets pour reprendre le pouvoir. Bref, nous vous proposons ce matin un plan de reconquête de votre attention. La reine des facultés, comme l'écrivait le grand psychologue américain William James. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Laissez-nous également des messages et des notes vocales via le site et l'appli France Inter. Les enfants et les ados ont également le droit de poser leurs questions et de témoigner. Elle est toute nouvelle dans l'équipe de chroniqueurs de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Désormais, tous les mercredis, vous nous proposez la chronique « Ma vie de parent » consacrée à l'éducation de nos enfants, à la parentalité, à la famille, sans jamais nous culpabiliser. Premier juré ?
Il va de soi, premier juré.
Le premier thème ?
Le premier thème, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit
activité,
la rentrée et amitié.
Activité et amitié. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. À lire et bien, grand bien vous fasse.
Un jour, quelqu'un m'a expliqué que l'attention d'un poisson rouge, vous savez, cette fameuse mémoire de poisson rouge qui n'existe pas, elle était de 8 secondes. Ça m'a pas beaucoup surpris. Ce qui m'a plus surpris, c'est quand cette personne, qui était un employé de Google en fait, m'a dit que le temps d'attention des millennials, c'est-à-dire de ceux qui sont nés avec un écran de téléphone portable au bout de la main, ce temps d'attention est de 9 secondes, c'est-à-dire une seconde de plus. Voilà, donc le poisson rouge en fait c'est nous, et le bocal c'est nos écrans.
Le directeur éditorial d'Arte, Bruno Patino, qui a publié la civilisation du poisson rouge, c'était sur Inter le 31 mai 2019. Alors pour nous aider à être plus attentifs à l'école, au travail, à la maison, deux expertes. Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour Ali.
Neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, praticienne à l'hôpital Rothschild. Vous avez publié chez Erol une journée dans le cerveau d'Anna et on peut lire tous les mois votre chronique dans le quotidien Le Monde. Bonjour Anne de Pomereux.
Bonjour.
Diplômée d'HEC, consultante, formatrice en entreprise. Vous êtes spécialisée dans la transmission de la meilleure manière d'utiliser nos facultés cognitives, j'en bafouille, et vous publiez chez Lattès à la reconquête de l'attention avec une préface de Mathieu Ricard. Alors, Sylvie Chocron, votre personnage fictif Anna, nous permet de décrypter donc notre quotidien à la lumière des neurosciences. Que se passe-t-il dans le cerveau d'Anna quand son attention est distraite par la consultation de son smartphone alors qu'elle est censée se concentrer sur son travail ? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ?
En fait, ce qui arrive à Anna, c'est ce qui nous arrive à tous. Donc, vous l'avez dit, on a tous en permanence l'illusion de pouvoir être multitâche. Mais en réalité, pour les gens qui travaillent sur l'attention, on sait bien que l'attention, c'est une capacité qui nous permet à chaque instant de sélectionner ce qui est le plus important pour nous, parce que les choses que nous faisons avec attention sont des choses qui nous coûtent sur le plan cognitif, et par définition, on ne peut en faire qu'une à la fois. Donc quand on fait plusieurs choses à la fois, en fait, on raisonne finalement comme si toutes ces choses étaient des automatismes qui ne nécessitaient pas notre pensée. Mais tout ce qui nécessite notre pensée doit être fait de manière individualisée.
Précisons que notre cerveau, bien aimé, ne peut pas accomplir simultanément plusieurs tâches qui demandent une grande attention. En revanche, je peux accomplir une activité automatique et une autre activité
Exactement.
Qui nécessite de l'attention.
Exactement. Donc c'est un petit peu l'exemple qu'on donne quand on dit qu'on peut tout à fait marcher en parlant avec quelqu'un, parce que évidemment la marche, elle est automatisée. Maintenant, si vous mettez des talons aiguilles et que vous marchez sur du verglas, c'est fini, vous ne pourrez plus parler avec quelqu'un parce que votre marche se désautomatise, elle prend votre attention, et comme normalement votre parole prend aussi votre attention, vous êtes en situation de double tâche et ça devient impossible. Donc il faut arrêter de penser qu'on peut réellement faire en même temps plusieurs tâches qui nécessitent de l'attention.
Anne de Pomereux, vous le martelez dans votre livre, notre cerveau n'est pas multitâche. Et d'ailleurs, dans ce livre, Mathieu Ricard écrit la préface, cite une étude réalisée par l'université Stanford auprès d'une centaine d'étudiants.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. On n'est pas fait pour faire plusieurs choses à la fois. On n'est pas multitâche.
On leur a demandé d'ailleurs, je précise, de se livrer à ces étudiants à différents niveaux de multitâche. On a mesuré leur performance sur un ensemble de tests cognitifs et comportementaux. Et les résultats sont très clairs. Plus quelqu'un s'engage dans le multitâche, plus l'ensemble de ses performances cognitives décline.
Oui, en fait, ce qui a été mesuré, c'est que quand on fait deux activités qui utilisent les mêmes circuits neuronaux, donc par exemple faire une multiplication et écouter la radio en même temps, ça, on pourrait se dire que c'est possible. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'erreurs, ça prend plus de temps et ça cause plus de stress. Voilà ce que ça produit. Donc, effectivement, on peut y arriver. Mais moi, je fais le test avec les ados que je reçois. Je leur demande de faire une multiplication à la main. Déjà, c'est pas si simple pour eux. Et en même temps, je leur pose des questions sur quelles sont les capitales de, je sais pas, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. Et là, ça coince. Ça coince assez vite.
Alors oui, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a eu des études qui ont vraiment montré que faire deux choses en même temps, deux tâches en même temps, c'est beaucoup plus fatigant que faire une tâche très compliquée. Et c'est beaucoup plus fatigant parce que non seulement il faut traiter deux sources d'informations, mais en même temps, il faut sélectionner la réponse. Parce que si vous êtes en train de faire votre commande de déjeuner pendant que vous travaillez, vous risquez d'envoyer votre commande de sushi à votre patron, ce qui serait un petit peu gênant. Et donc en fait, vous êtes obligé de sélectionner non seulement ce sur quoi vous travaillez, mais aussi la réponse que vous allez donner à tout ça. Et c'est ça qui est épuisant, c'est cette sélection permanente.
Peut-on dire avec Mathieu Ricard que la distraction est devenue une maladie chronique ? Je cite le philosophe américain Michael B. Crawford qui nous dit que nous sommes en train de vivre une véritable crise de l'attention.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est le mal du siècle. Et comme l'attention est la reine des facultés, voilà, il va falloir essayer de trouver les moyens de compenser. La solution n'est jamais facile, elle va demander des renoncements en fait, mais pour un plus grand bien. Donc l'idée force derrière, c'est de renoncer à du plaisir immédiat, etc. C'est un peu comme quand on se nourrit en fait. On peut se gaver de bonbons, de hamburgers, etc. Ça fait plaisir, c'est facile à manger, mais ça nourrit mal et à la fin, on a mal au ventre. Avec le mener des activités qui demandent une certaine dose d'attention et la frustration de pas y arriver du premier coup, parce que c'est ça qui est engagé aussi, c'est exactement le processus inverse. C'est comme manger un plat qui est un peu amer au début, mais qui au final va nourrir bien et va nous rendre très heureux. C'est ça qui est derrière.
Sylvie Chocron.
Oui, c'est drôle cette comparaison que Anne de Pomereux fait, parce que pour certains chercheurs, les réseaux et le multitasking, ça s'apparente à une friandise pour le cerveau.
À des pâtisseries.
Exactement, à des bonbons. Et donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a l'illusion de se faire plaisir, mais en réalité c'est totalement impossible et surtout c'est extrêmement fatigant.
Mais pourquoi il est difficile de résister à ces pâtisseries que sont devenues nos écrans pour notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Bah en fait, on sait bien que les réseaux sociaux et de manière générale tous ces sites sur lesquels on navigue procède en nous proposant en fait des renforcements positifs. Les likes, c'est rien d'autre que quelque chose qui nous fait plaisir. Et donc finalement, tous ces renforcements vous rendent presque dépendants à ces stimulations. Et donc, ça devient pour certains comme une addiction. Vous ne pouvez pas vous empêcher, même si vous êtes engagé dans une tâche qui vous plaît. Vous parliez tout à l'heure des nombreuses personnes qui consultent leur écran pendant qu'ils regardent un film qu'ils aiment. Et donc, même si vous faites quelque chose, même si vous êtes au restaurant avec votre amoureux, vous ne pouvez pas vous empêcher, c'est cette peur de louper quelque chose, qui pourrait vous faire plaisir.
Il faut comprendre, en fait, moi ce que j'ai découvert en étudiant le sujet, c'est que c'est conçu pour nous voler notre attention, toutes ces applications. Pourquoi ? Mais ça, c'est parce que on a basculé dans l'économie de l'attention. Il faut bien comprendre ça, parce que sinon, on peut pas comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que l'économie de l'attention ? C'est le présupposé que la donnée rare, aujourd'hui, elle n'est pas du côté de l'offre. L'offre, elle est infinie, elle est pléthorique, elle est presque gratuite. La donnée rare, la ressource rare est précieuse donc. Elle est du côté de la réception, elle est dans notre cerveau. La pépite, c'est notre attention. Et donc, ce qui est rare est cher, et par conséquent, les plateformes vont essayer de nous dérober notre attention parce qu'elles gagnent de l'argent quand on reste chez elle et quand on bascule pas chez quelqu'un d'autre.
Sylvie Chocron, il faut se faire une raison. Qu'on le veuille ou non, notre attention sera toujours attirée par la nouveauté, le plaisir immédiat qui nécessite le minimum d'effort.
Alors, c'est le principe même de l'attention. Donc normalement, l'attention, c'est une capacité qui est là pour vous orienter vers des choses qui sont soit nouvelles, soit importantes pour vous. Parce que c'est ce qu'on a hérité du règne animal. Finalement, il faut faire attention à ce qui pourrait être dangereux, ou ce qui est nouveau, ce qui est inattendu. Et du coup, vous allez orienter votre regard, vous allez tourner la tête, parce que c'est ce qui doit solliciter justement toutes vos capacités. Donc, par définition, on ne va pas aller s'orienter vers la couleur du plafond qu'on connaît par cœur. On va aller s'orienter vers des choses nouvelles qu'on va d'ailleurs sans doute mémoriser, parce que l'attention, c'est ce qui nous prépare à percevoir et à retenir aussi. Donc l'attention, c'est l'outil indispensable pour qu'on puisse percevoir avec conscience et qu'on puisse retenir plus facilement.
Les yeux dans les yeux, rassurez-nous, Sylvie Chocron, Anne de Pomereux, vous êtes également atteinte par le virus de la distraction et de l'inattention.
Alors moi, j'ai une très grande chance, c'est que je suis sur aucun réseau social.
Bienvenue au club.
Voilà, donc c'est une grande chance, parce que du coup, je suis moins soumise à tout ça.
Anne de Pomereux.
Alors moi, je suis soumise, et c'est très bien, parce que je comprends mieux les adolescents que j'accompagne derrière. Mais je résiste parce que je connais les limites des réseaux sociaux, donc j'y vais extrêmement peu souvent, effectivement. Mais je sais que le matin, quand je prends mon portable, qui me réveille, puisque la sonnerie du réveil est dessus, que je commence à regarder la météo, puis le fil d'actu, que ça, je suis foutue, j'en ai pour une demi-heure.
L'idée de votre livre, c'est de ne pas résister au désir, de devenir un moine soldat, mais de savoir attendre pour assouvir ses désirs. L'attente peut être excitante, hein.
Exactement. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir des grands désirs et de pas les assouvir tout de suite. Et donc moi, je suis pour l'augmentation du désir, qui est une très bonne chose. Et du coup, la résistance au plaisir immédiat. Et pour l'attention, c'est ça qui va être en jeu.
Oui, alors c'est très très important. Par contre, pour avoir conscience de ses désirs, encore faut-il avoir suffisamment de disponibilité intellectuelle. Et donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que la surutilisation simultanée de tous ces outils fait qu'en fait, la plupart des enfants et des adultes n'ont même plus le temps d'avoir leur esprit qui vagabonde, qui justement vogue vers des désirs, des envies, qui se projette dans l'avenir, qui met en relation des souvenirs et ce qu'on va faire dans une semaine ou dans un mois. Et c'est pareil pour les enfants. Et pour prendre conscience de ces désirs et les exaucer, les attendre et en profiter, il faut avoir des moments qu'on appelle de vagabondage mental, qui sont des moments justement où on va laisser notre esprit libre.
Tout à fait d'accord. Les pauses pour ne rien faire sont très très importantes. Alors ça, c'est un message qui n'est pas facile à faire passer, notamment aux adolescents, parce qu'ils aiment bien être occupés tout le temps. Mais en fait, c'est la pause où on ne fait rien qui va reconstituer le niveau d'attention.
Oui, d'ailleurs, vraiment d'un point de vue neuropsychologique, on sait maintenant que la mémoire consolide les souvenirs pendant les pauses. C'est d'ailleurs pour ça que le sommeil est important, mais même dans la journée, c'est pendant qu'on va s'arrêter que le cerveau va pouvoir travailler et ancrer tout ce qu'on vient de faire. Donc c'est vraiment crucial.
Anne de Pomereux, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous proposez des solutions à court, moyen et long terme. L'idée de ce livre, c'est de nous aider à mettre en œuvre une sorte d'hygiène attentionnelle, comme il existe une hygiène bucco-dentaire.
C'est tout à fait ça, oui. On peut lire ça comme ça. Sachant que l'attention, c'est... Alors Simone Veil, la philosophe, disait que il y a une énorme résistance à l'attention, en fait, hein, et que on répugne à l'attention plus que le corps ne répugne à la fatigue. Donc comprendre que c'est très difficile. Et à partir du moment où on comprend ça et qu'on accueille le fait que ce soit difficile, on va pouvoir mener des actions qui vont permettre de stabiliser et de petit à petit, avec des stratégies du pas à pas, pas être très ambitieux, mais sur des objectifs à atteindre petits. Arriver petit à petit à reprendre, à apprivoiser notre attention pour pouvoir déposer des moments d'attention qui vont nous permettre d'apprendre. Parce qu'on n'apprend rien si on n'est pas attentif.
Et la philosophe Simone Veil qui a écrit un petit livre sur l'attention.
Merveilleux, merveilleux petit livre.
Alors, petite précision sémantique, c'est quoi exactement l'attention, Sylvie Chocron? C'est un mot à la fois familier et imprécis. Alors, pour le dire vite, c'est une faculté cognitive qui permet de se rendre présent à soi-même, aux autres et au monde. Et je cite le père de la psychologie contemporaine, William James, le frère de l'écrivain Henry James. L'attention est la prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui sont présents simultanément. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. En d'autres termes, c'est chocron.
Alors en fait, quand on définit l'attention, on définit en général deux grandes fonctions. La première, c'est la capacité à rester suffisamment éveillé pour être en contact, en interaction avec le monde. Donc c'est la vigilance. Et la deuxième, c'est la sélection. C'est que l'autre capacité qu'on a sur le plan attentionnel, c'est à chaque instant de sélectionner ce qui est le plus important pour nous. Et donc là, pendant que je vous parle, je dois éliminer toutes les autres informations, l'étiquette de mon chemisier dans mon cou, le contact du sol sous mes pieds, les battements de mon cœur, etc. Je dois tout éliminer.
Vous faites du tri sélectif.
Exactement, et je dois sélectionner uniquement les éléments importants, donc notre conversation. Donc, qui dit attention dit sélection. Mais par contre, ce qui est très important, c'est d'expliquer que l'attention n'est pas uniquement un mécanisme qui est sous le contrôle de notre volonté. Et donc, quand on dit à quelqu'un « fais attention », quelque part, c'est pas tout à fait correct, parce que l'attention, c'est aussi une capacité qui se mobilise à notre insu, de manière automatique, sur la nouveauté, justement. Donc, on n'a pas la main en permanence sur notre attention.
Anne de Pomereux.
Oui, et dans le long terme, l'attention répond relativement mal à la volonté. Donc ça, il faut bien le comprendre, et donc il va falloir utiliser autre chose que cette volonté et cette bonne résolution et ces décisions. Oui, alors je promets que allez, je vais me concentrer demain. Ça marche pas en fait. Donc, faut trouver d'autres solutions que la volonté.
Anne de Pomereux, vous dites une chose assez importante. Sans attention, je suis déconnecté. Je ne vois pas, je n'entends pas, je ne comprends pas.
Oui, c'est ce qui arrive quand on lit, et puis qu'à la fin de la page, on se dit, en fait, mes yeux ont parcouru toutes les lignes, mais à la fin, rien n'est rentré dans mon esprit. Donc, c'est une question de connexion, l'attention. C'est comme le courant électrique. Ça passe ou ça passe pas. Et c'est pas plus ou ça passe pas plus ou moins. Soit ça passe, soit ça passe pas. C'est une question de connexion. Et l'attention, en fait, c'est la durée avec laquelle la connexion s'est produite. Donc une bonne attention, c'est une attention fluide sur une durée longue.
Oui, en fait, sur le plan cérébral, on a vraiment montré que lorsque vous percevez quelque chose, par exemple visuellement, si vous avez fait attention avant à l'endroit où ça allait arriver, vous préactivez vraiment les régions dans votre cerveau qui vont percevoir. Donc on dit qu'il y a une préparation attentionnelle à la perception, et effectivement, on peut faire des choses sans attention, mais elles seront forcément automatiques. C'est comme quand vous conduisez et que vous êtes en pilotage automatique, vous faites un trajet que vous connaissez très bien, et finalement, tout se passe très bien, parce que s'il s'était passé quoi que ce soit, ça aurait attiré votre attention. Donc vous pouvez, pendant quelques minutes, être complètement en pilotage automatique et penser à autre chose. Mais si vous devez faire une activité qui nécessite de la pensée, vous ne pouvez pas être en pilotage automatique.
C'est la pensée qui guide, en fait.
Et Patrick, sur la page Facebook, nous écrit « En même temps que je vous écoutais, j'ai fait l'expérience de faire un petit jeu que j'ai sur mon téléphone. Conclusion, difficile de me concentrer sur le jeu en vous écoutant et d'assimiler votre émission. »
Mais c'est bien, parce que ça veut dire que c'est nous qui avons recruté son attention. Il n'a pas réussi à jouer.
Allez, dans quelques instants, nous fournirons des outils pour reconquérir votre attention et celle de vos enfants. N'hésitez pas à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Et je vous propose d'écouter et Bill Withers, Lovely Day.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
when the day that lies ahead of me seems impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day.
Interpréter Lovely Day.
Encore 5 minutes d'attention.
Non ! Grand bien vous fasse.
Et puis après, je vous raconterai l'histoire du zéro.
Pas question !
Et on se fait !
Sur France Inter.
10h28 et ce matin, nous vous fournissons quelques armes pour reconquérir votre attention. Un vocabulaire volontairement guerrier, car les géants d'Internet sont des puissants Goliaths qui savent piller notre si fragile attention. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. La neuropsychologue Sylvie Chocron et la formatrice Anne de Pomereux sont là pour vous éclairer. Écoutons le chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud.
L'attention, elle va dépendre, la qualité de l'attention va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur, je dirais, c'est la capacité à se fixer des objectifs qui sont courts, donc à court terme, très concrets pour l'enfant, très simples aussi. Pas essayer de faire deux choses à la fois, de chasser deux lièvres à la fois. Parce qu'en général, c'est là où l'enfant va se perdre. Il va essayer de relire un texte en soignant à la fois le style de l'écriture, de l'expression écrite, et également l'orthographe. Donc tout ça va faire un petit peu des nœuds dans son cerveau. Donc on essaie d'apprendre ce qui est un petit peu du bon sens aux enfants à se fixer un seul objectif à la fois, donc de fuir ce qu'on appelle le mauvais multitâche. Puis par ailleurs, il y a un autre travail à faire qui est d'apprendre à ressentir très tôt les signes de la distraction. Donc là, un visage se tourne vers moi sur ma gauche pour entamer une conversation, je vois une forme blanche, naturellement mes yeux vont avoir tendance à bouger, ma tête, mon corps, je vais m'orienter. Dans ce cas-là, la distraction elle s'exprime sous forme de tension musculaire que je peux repérer très tôt, un peu comme si j'étais sur une poutre et que j'étais en train de me déséquilibrer à cause de la pesanteur, donc je repère très vite que je suis en train de partir, et là, c'est encore le bon moment pour me restabiliser mon attention. Alors que si, ça y est, si je suis parti et que j'ai entamé la conversation, c'est trop tard.
Le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud, il est donc essentiel d'être attentif aux prémices de la distraction. Et d'ailleurs, le mot distraction est emprunté au latin distractio, hein, qui veut dire déchirement, séparation. Il faut être très attentif à ça, Sylvie Chocron.
Oui, parce qu'en fait, l'attention, c'est aussi la capacité à inhiber les distracteurs. Et donc, en fait, quand on parlait tout à l'heure de sélectionner, ça veut dire amplifier ce qui est important et supprimer ce qui ne l'est pas. Mais pour supprimer ce qui n'est pas important, il faut être attentif à ces distracteurs et ne pas les laisser prendre notre attention, justement. Donc, inhiber les distracteurs, c'est une grande fonction de l'attention.
Anne de Pomereux, je rappelle que vous publiez « À la reconquête de l'attention ». Pour fortifier cette attention, il faut réunir un certain nombre de conditions très très matérielles. C'est une évidence, mais plus les sources de distraction augmentent, plus il est difficile de se concentrer. L'ouïe et la vue sont très sensibles à la distraction.
Oui.
Ce matin, en écrivant mon émission, donc pendant 2 heures, dans le silence monastique, tout allait bien. J'ai commencé à mettre une chanson de Clara Luciani. Et là, mon attention, je l'ai senti même physiquement, a commencé à décliner, à chuter. Et au bout de 5 minutes, eh ben, j'ai éteint. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre.
Mais c'est tout à fait ça, en fait. En fait, la volonté marche mal. Ce qui va marcher bien, c'est d'agir sur l'environnement. En fait, il faut voir très concrètement sur quoi on peut agir autour de nous pour favoriser l'attention. La première chose, c'est peut-être la plus évidente, c'est d'éloigner les distracteurs. Alors, éloigner les distracteurs, ça veut dire commencer par éloigner le téléphone, parce que c'est le plus puissant distracteur. Mais éloigner physiquement, parce que si on le met uniquement à côté de nous, sur mode avion, c'est réversible. Et la volonté, là, elle va pas tenir le coup. Donc il faut un éloignement physique et irréversible. C'est pour ça que moi je prône, plus on est accro, plus il est difficile de résister, plus il faut mettre des moyens qui sont puissants. Le côté, alors j'ai trouvé, hein, en cherchant beaucoup, des outils comme des boîtes où on met le téléphone dedans, on appuie sur le bouton, on programme le temps dans lequel, pendant lequel on va pas pouvoir revenir dessus, on clique, paf, la boîte se ferme, et c'est fini. Alors une fois que c'est fini, ce qui se passe de très intéressant, c'est que on est OK pour faire autre chose. Tant qu'on a la possibilité d'aller vers le distracteur, on n'est pas complètement OK pour faire autre chose.
Ça paraît bête comme chou de le dire comme ça, mais moi, à titre personnel, quand je regarde une série, je mets le téléphone que je mets sur mode avion dans une autre pièce.
Ben voilà.
Voilà, parce que
vous avez compris.
Voilà.
Donc c'est très bien.
Sylvie Chocron.
Oui, alors je pense qu'on peut aussi quand même expliquer qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et donc on connaît tous des gens qui des ados ou des adultes qui préfèrent travailler dans une bibliothèque dans le silence et d'autres à l'inverse qui préfèrent travailler au café ou chez eux avec de la musique. C'est pas une vue de l'esprit et on va pas convertir les uns au comportement des autres. Il y a des recherches très sérieuses qui ont montré que même dans des tâches cognitives qui nécessitent de l'attention, par exemple répéter une série de chiffres tout en écoutant aussi une série de lettres qu'il faudra répéter après, vous avez des gens qui sont meilleurs en double tâche parce que finalement ils sollicitent toute leur attention et donc du coup ils ont de meilleures capacités plutôt qu'en simple tâche. Donc on va pas non plus raconter aux auditeurs qu'on est tous égaux par rapport à l'attention. Il restera toujours des gens qui seront meilleurs en travaillant avec de la musique, contrairement à vous Ali, plutôt que travailler dans le silence. Ça existe.
Mais pourtant, j'arrive à travailler dans un café un peu bruyant. Ça, ça me dérange
pas. Parce que vous inhibez du bruit. Alors que là, ce matin, il fallait inhiber quelque chose qui vous renvoyait à des souvenirs, à des
souvenirs
émotions. Exactement. Donc c'est beaucoup plus dur parce qu'il y avait du contenu.
La mémoire étant associative, si vous écoutiez une musique des vacances qui vous rappelez vos vacances, automatiquement, votre mémoire va vous emmener vers les vacances et donc va vous déconnecter de la tâche principale.
Anne de Pomereux, faut-il adopter, s'imposer à soi et à ses enfants ou à ses petits-enfants des règles monastiques, c'est-à-dire un environnement sobre et austère qui favorise l'attention pour travailler, pour faire ses devoirs, pour bûcher sur un dossier?
Oui, tout dépend pour quelle tâche, évidemment. Aujourd'hui, l'attention qui est menacée, c'est l'attention soutenue, c'est-à-dire l'attention dont on a besoin pour apprendre lorsque l'environnement est très appauvri. Quand un enfant est en classe, il se passe pas énormément de choses. Faut écouter, faut rester assis, c'est long, c'est parfois pas très intéressant, etc. À la maison, quand il revient, il regarde sur son portable, l'environnement est enrichi, ça bouge tout le temps, c'est facile, on perd pas. Et donc c'est ça qui est en jeu. Autrefois, si vous voulez, on s'ennuie à l'école, mais on s'ennuie aussi à la maison. Donc, c'était plus facile de s'y mettre au travail. Là, la concurrence est très défavorable au travail qui demande de l'attention soutenue. Donc, c'est cette attention-là qui est difficile à mobiliser. Et pour mobiliser cette attention-là, il faut, en fait, sanctuariser, je dirais, des moments pas forcément longs, mais des moments où on fait que ça, pour pouvoir ensuite basculer vers le plaisir. Donc pas de demi-travail, pas de demi-loisir, c'est tout simple.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Ali.
Bienvenue.
Bon mois de septembre, puisqu'on est le premier.
Merci beaucoup.
Bonjour à votre invité.
Donc quel est votre conseil pour avoir un petit peu plus d'attention dans sa vie quotidienne?
Alors, effectivement, ce que je disais à votre collègue du Standard, c'est que on peut trouver un petit moyen habile, comme disent les Tibétains, faire le matin, avant de commencer la journée, trouver un tout petit moment phase de quelques minutes après le petit déjeuner, en le programmant bien sûr dans son emploi du temps pour pas que ça devienne quelque chose de pas prévu, où on fait une véritable douche interne, c'est-à-dire on va respirer tranquillement en inspirant simplement et en soufflant et en imaginant que on n'inspire pas que de l'air, mais du magnétisme ambiant qui est l'énergie de la nature en général, avec la fenêtre bien ouverte, bien sûr, et où en bloquant un peu la respiration en soi, on va laisser vidanger le corps à tout niveau, du corps physique au corps psychique et nerveux et autres, et parasympathique et le reste. Et en expirant, on va sortir, on va visualiser des nuages noirs, c'est-à-dire toutes les émotions négatives, tout le surplus de pensée, toutes les choses qui nous stressent, gentiment, sans penser à quelque chose en particulier, en visualisant ça comme un nuage qui sort, et faire ça quelques minutes, c'est-à-dire 5 à 10 minutes, et au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir fait un reset, en anglais qui veut dire réinitialiser, qui veut dire en fait remettre un peu d'une manière homéostatique toutes les pensées, les émotions d'une manière beaucoup plus calme. Et du coup, on va créer de la place en soi qui va permettre de nouveau de travailler sur l'attention. Puisque du coup, étant donné qu'on va être plus calme et plus libéré à l'intérieur, eh ben, l'attention va plus se faire naturellement, va plus se focaliser gentiment, sans être perturbé par l'excès de pensée qu'on a en soi.
Merci Pierre. Voilà. En tout cas, demain, je pratiquerai votre douche mentale. Notre directrice de recherche au CNRS approuve ce que vous venez de dire.
Bah oui. Oui, tout à fait, Pierre. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses importantes dans ce que vous avez dit. D'une part, le fait que le stress, c'est l'ennemi de l'attention. Parce qu'en fait, le stress, il vient enlever de la disponibilité intellectuelle. Et du coup, par manque de disponibilité, vous ne pouvez plus faire attention à ce à quoi vous devriez faire attention. Vos pensées, elles sont prises par ce qui vous stresse, justement. Donc, cette douche interne que vous préconisez, elle enlève déjà du stress. Ensuite, vous avez parlé de la nature et on sait que le contact avec la nature permet de remobiliser l'attention. Donc, parmi les conseils qu'on donne, et d'ailleurs, mon nana fictive, on lui conseille d'aller se promener dans la nature, même un temps court, pour récupérer de l'attention. Donc, on sait que c'est une demi-heure dans la nature, c'est la capacité à récupérer de l'attention par la suite, donc c'est très important. Et je pense qu'on peut rajouter à votre douche une forme de motivation, parce que je pense qu'on n'a pas parlé de la motivation, mais on dirige d'autant mieux notre attention, et pendant longtemps, puisqu'on a parlé d'attention soutenue, qu'on arrive à trouver une motivation. Et donc, si on arrive le matin à faire finalement le point sur tout ce qui va nous motiver dans la journée et ce à quoi on va devoir faire attention, ce sera d'autant plus facile de maintenir notre attention pendant longtemps, même pour les enfants en classe.
Merci beaucoup Pierre pour votre excellent conseil ce matin. En tout cas, si j'ai bien compris, Anne de Pomereux, on ne naît pas attentif, on le devient, il est donc nécessaire de s'entraîner. Il est important de planifier, de s'organiser et aussi de s'accorder des pauses, mais vous nous conseillez la méthode du Pomodoro, mise au point dans les années 1980 par Francesco Cirillo. Expliquez-nous cette méthode du Pomodoro qui est très facile à mettre en œuvre pour certaines tâches qui nécessitent de l'attention.
Alors, je la conseille beaucoup justement aux jeunes qui sont dans des situations d'apprentissage et quand la motivation n'est pas forcément beaucoup là. Quand on est très motivé pour accomplir une tâche, on peut se lancer dans des séances de travail un peu longues. Mais quand on est moins motivé, l'idée, c'est de découper le saucisson en tranches plus fines, en fait. Parce que ce sera plus digeste. Et les séances du Pomodoro, c'est le travail sous contrainte, en fait, temporelle. Il n'y a pas plus difficile que de se mettre à la tâche si on ne sait pas quand ça va finir. Là, l'idée, c'est de contenir le temps de façon à renforcer forcément la concentration. Je veux dire, bon, j'ai pas très envie de me lancer dans cet exercice de mathématiques, mais je sais que dans 25 minutes, j'aurai fini. Donc déjà, le premier avantage, c'est que ça va faciliter la mise en route, puisque je sais qu'à la fin, ça s'arrête au bout d'un temps assez court. Ensuite, l'idée, c'est que mieux vaut travailler en ayant plusieurs séances de 25 minutes séquencées avec des pauses entre les séances, que de se lancer dans deux heures d'affilée, surtout quand on n'a pas une capacité d'attention et de concentration très forte au départ.
Petit inconvénient avec cette méthode, c'est qu'elle n'est pas adaptée à tous les types d'efforts. Pour écrire votre livre, d'ailleurs, vous programmiez plutôt des plages de travail de 2 à 3 heures, parce que chez vous, la moindre pause vous déconcentrez.
Exactement. Alors après, c'est comme toutes les méthodes, il faut pouvoir les tester et ensuite, petit à petit, les adapter à son propre profil. Un travail d'écriture, c'est un travail précisément où on n'est pas forcément efficace tout de suite. Et puis, il peut y avoir une mise en route un peu longue. On peut mettre parfois une heure juste à arriver à trouver le premier mot. Donc c'est évident que 25 minutes ça aurait pas été suffisant. Néanmoins, l'idée c'est de programmer un temps qui est toujours contenu avec un début, une fin, un contenu, un enjeu. Donc une fois qu'on a ça, c'est plus facile de s'y mettre.
Et comme vous le dit une brillante étudiante en médecine, Tiffaine, hein,
oui.
Pas de demi-travail, pas de demi-loisir. Quand on travaille, on fait vraiment ça. Et quand on ne travaille pas, on débranche vraiment.
Exactement. Elle a réussi médecine brillamment grâce à cette idée toute simple. Quand je travaille, je fais que ça, mais je m'accorde des pauses. Et moins on est motivé, plus l'enjeu c'est de s'accorder des pauses, enfin de programmer ces pauses. Si je sais que je dois quitter ce travail-là à 18h parce que je vais au cinéma, alors je peux vous assurer que la séance entre 17h et 17h45, elle sera efficace.
Sylvie Chocron.
Oui, alors ce qu'on conseille aussi beaucoup aux gens qui ont des difficultés pour faire attention, c'est de faire des pauses avant le moment où on n'a plus d'attention. Parce que si on s'arrête quand on n'est plus capable de faire attention, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus difficile de se remobiliser. Alors que si on fait la pause quand on a encore de l'attention, ce sera beaucoup plus facile de se remettre au travail.
Allez, il est temps d'écouter la nouvelle chronique « Ma vie de parent » de Gwenaëlle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Ma vie de parent, par Gwenaëlle Boulay.
Oui, alors il y a un dicton africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Alors voilà, je suis pas psychologue ni coach en éducation bienveillante. N'attendez pas de moi des miracles en termes d'éducation, étant donné que moi-même je donne du grain à moudre chaque semaine à mes enfants pour nourrir leur future psychanalyse. En revanche, je crois beaucoup au bon sens et au partage en termes d'éducation, aux vertus de l'erreur aussi et de la remise en question. Alors cette année, je vous propose donc de constituer tous ensemble une sorte de communauté dans laquelle nous allons nous aider les uns les autres à prendre un peu de recul sur notre quotidien de parents et sur l'éducation de nos progénitures. Le tout en s'allégeant au maximum de nos culpabilités.
Et cette semaine, Gwenaëlle Boulay, vous avez décidé de nous parler activité et amitié.
Et oui, en cette semaine de rentrée, j'avais prévu de vous parler de ce terrible moment qu'est la négociation des horaires pour les activités des enfants. Je sais pas vous, mais moi, je suis capable de me transformer en lionne ou en tigre. Bref, en animal féroce aux griffes acérées pour obtenir the horaire qui ne fera pas de notre semaine un enfer, et ce pour une année entière. Parce que si le foot du numéro 2 a lieu en même temps que le début du cours d'escalade numéro 1, qui a lieu à l'autre bout de la ville, mais à une heure d'écart de la piscine de numéro 3, vous êtes foutus et vous en mordrez les doigts jusqu'à l'os toute l'année. J'avais donc prévu de vous parler de ça, mais finalement non.
Bah alors vous allez nous parler de quoi, Gwenaëlle ?
Eh bien d'amitié. Parce que cet été, il m'est arrivé quelque chose qui m'a immensément donné envie de vous parler des amitiés d'enfance. De passage en Bretagne, mes parents m'ont fait la surprise d'inviter mon copain d'enfance de vacances. Un garçon de mon âge avec qui j'ai passé de nombreuses semaines durant toute mon enfance. Et retrouver 30 ans plus tard quelqu'un avec qui on a eu une telle complicité n'est pas sans risque. Chacun a pris son chemin, aurons-nous encore des choses à nous dire? Cela ne va-t-il pas ternir l'image que j'ai conservée de tout ça? Intérieurement, je faisais pas la maline. Mais dès le premier regard, au premier mot échangé, j'ai su que non, je n'avais pas perdu cet ami précieux. Et toute la soirée, au fur et à mesure des paroles prononcées, je me disais « Ok, je sais pourquoi on s'entendait si bien ». En partageant nos souvenirs, je me suis rendu compte que je ne me souvenais que de très peu de choses. Juste un halo lumineux de bonheur qui entourait notre relation. Que faisions-nous concrètement de toutes ces heures de liberté? Je ne m'en souviens pas. Que faisaient les autres autour de nous, nos sœurs, nos parents? Je ne me souviens pas davantage. Car à cet âge, l'amitié efface tout ce qui dépasse de la relation pour ne conserver que le bonheur d'être ensemble. Et c'est cette exclusivité qui fait de vous un être unique, capable d'être apprécié, aimé, attendu, choisi pour ce que vous êtes. Les fondements d'une belle estime de soi pour toute la vie. Alors le soir, en me couchant, j'ai été émue aux larmes d'avoir pu réouvrir une petite fenêtre sur cette amitié d'enfance. De retrouver l'espace de quelques heures, le goût de l'insouciance de ces années disparues. Alors oui, pour revenir au sujet de départ, apprendre le violon, l'escalade, le dessin ou la danse peut apporter de la joie, des compétences ou le goût de l'effort et de la persévérance, de l'attention peut-être, et cela vaut parfois la peine de sortir ses griffes. Mais si pour nous aider à démêler des emplois du temps trop chargés, nous repensions tous tout simplement à la puissance de ces amitiés d'enfance, à ce halo de lumière dans lequel elles nous ont permis de baigner, à la confiance qu'elles nous ont donnée, Et si le mercredi après-midi, le lundi soir ou le samedi, on invitait tout simplement un copain, une copine, pour jouer, imaginer, rigoler, patouiller, papoter, s'ennuyer. Et si c'était ça la pépite à offrir à notre enfant, à nos enfants? Une précieuse pépite qu'ils déposeront dans le coffre à trésors de leur enfance. Un coffre qui, ouvert des années plus tard, continue de nourrir notre vie, avec parfois de la joie, parfois de la mélancolie. Et puis si vous ne comprenez pas toujours pourquoi votre enfant a choisi tel ou tel copain, telle ou telle copine, faites-lui confiance, lui le sait. Il a certainement choisi celui ou celle dans les yeux de qui il brille plus qu'ailleurs, celui ou celle pour qui il ou elle est une pépite. Et ça, ça n'a pas de prix.
Merci Gwenaëlle Boulay, vous me faites penser là des copains du primaire, Jérôme Palarols, Séverine Bénion,
il s'appelait David, je ne sais pas ce qu'il écoute.
Anne de Pomereux.
Oui, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que pour l'éducation de l'attention, il y a quelque chose de fondamental, c'est le jeu libre. C'est-à-dire le jeu où c'est l'enfant qui décide de ce qu'il va faire, et plus le jeu est sobre, en fait, moins il est sophistiqué, mieux ça marche. Donc on faut peut-être moins surcharger les enfants d'activités et plus leur donner du temps à eux pour jouer, et ça développe l'imagination et ça sera extrêmement favorable pour l'attention plus tard. Donc on retrouve les bienfaits de ces jeux libres et qui sont quand même de moins en moins possibles aujourd'hui. Donc vive le jeu libre.
Sylvie Chocron.
Oui, il faut pas oublier qu'en surchargeant l'emploi du temps de nos enfants, on surcharge le nôtre aussi, et que tout le monde est au bord du burn-out dès la rentrée alors qu'on avait pris des bonnes résolutions avant. Et effectivement, on sait que la créativité, l'imagination, tout ça survient dans des périodes, comme vous le disiez, d'ennui, et si possible d'ennui à plusieurs, avec un ami ou ses amis. Et donc effectivement, il faut pas oublier dans l'emploi du temps serré de garder des plages libres, seules ou avec des amis, pour justement aider à l'imagination.
Bah vous avez vu Gwenaëlle, ça s'est bien passé cette première chronique,
oui,
c'était passionnant. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos expériences de parents, de grands-parents, de beaux-parents avec nous. Vous pouvez écrire à Gwenaëlle sur son mail, Gwenaëlle avec deux L, .boulet, B-O-U-L-E-T, Gwenaëlle.boulet @radiofrance.com, c'est bien ça?
C'est bien ça, et je pense qu'on aura plein de Bretons qui vont nous écrire, c'est les seuls qui sauront écrire le prénom.
On se retrouve mercredi prochain, évidemment Gwenaëlle, vous restez avec nous. Dans quelques instants, comment rendre les ados plus attentifs? Vaste programme. Ados, parents, grands-parents, vous pouvez nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. C'est simple et rapide, comme un coup de fil. En attendant, on écoute Yéli, Yéli.
Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. T'as ce semi, t'as ce semi, t'as ce semi.
très joli titre de Yeli Yeli Tassousmi.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
Ce que nous avons décidé de faire, c'est débrancher le Wi-Fi et de n'utiliser l'ordinateur que...
Quoi ?
Le soir de 20h à 20h30.
S'il est déconnecté, on fait comment ?
Il y aura un câble Ethernet dans la cuisine.
Et on vous supervisera.
On pourra plus rien faire du tout sans le Wi-Fi.
On ne passe pas assez de temps avec sa famille quand on est sans arrêt sur son iPhone et sur l'ordi.
On est au 21e siècle.
On peut vivre sans technologie. Charlotte, pose ça.
Tu n'allumes pas d'écran. J'ai des devoirs à faire, j'en ai besoin.
Oh.
L'argument qui tue.
Extrait de 40 ans mode d'emploi. Je sens que ça vous parle, Gwenaëlle Boulay.
Ça me parle tellement.
Et ce matin, nous vous fournissons quelques outils pour reconquérir votre attention et celle de vos enfants. Tiens, écoutons une note vocale laissée par Isabelle de Strasbourg.
Bonjour. Isabelle de Strasbourg. J'ai deux jeunes adultes de 18 et 20 ans que je vois évidemment faire plusieurs choses à la fois entre leur téléphone, leur double écran. Et je voulais savoir si tout ce qu'on entend là des recherches scientifiques, neuroscientifiques, est toujours valable pour cette jeune génération qui, elle, contrairement à nous, est née avec ses multi-écrans et si petit à petit l'homme ne va pas devenir multitâche. Merci pour votre réponse.
Réponse de Sylvie Chocron, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS.
Oui, alors c'est vrai, on parle maintenant de native hein, pour cette génération parce qu'ils sont nés avec des écrans au bout des doigts quasiment. Et on se demande s'il va y avoir une plasticité de notre attention et voire même des régions cérébrales qui gèrent l'attention. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Et les études montrent que ça reste extrêmement difficile de justement fonctionner avec tous ces écrans en même temps et de faire plusieurs choses à la fois. Il y a même de grandes craintes pour les tout-petits. Donc on sait bien que les tout-petits qui sont exposés à trop d'écrans trop tôt ont des risques très importants de troubles de l'attention plus tard, de troubles des apprentissages, voire même de troubles de l'interaction sociale. Puisqu'il faut imaginer qu'il y a des tas de bébés qui naissent dans des familles où, par exemple, des personnes parlent à côté de ces bébés, mais ne leur parlent pas à eux. Mmh. Donc pas laisse des messages vocaux, c'est-à-dire même pas du langage dans l'interaction. Donc en fait, on sait qu'il y a tout un tas de risques et pour l'instant, les recherches portent plutôt sur les risques à long terme. Mais c'est vrai que c'est une vraie, vraie question et il y a aussi de nombreuses recherches qui visent à comprendre si à une échéance de 30, 50 ans ou plus, notre cerveau va véritablement s'adapter. Mais pour l'instant, malheureusement, on peut pas répondre à cette question parce qu'on est dans cet entre-deux, même pour ces sujets qui sont natifs des écrans.
Anne de Pomereux.
Oui, moi je crois qu'il y a une grande stabilité dans ce que c'est qu'un être humain et que ce qui bouge très vite, c'est la technologie et l'environnement dans lequel on vit. Nous, on ne peut pas bouger, on ne peut pas évoluer à la même vitesse. Et donc, c'est ce décalage entre la vitesse du pléthore d'informations qu'on a et que la lenteur avec laquelle les informations deviennent de la connaissance, parce que c'est ça le problème, en fait.
Alors, beaucoup d'auditeurs nous demandent comment aider les ados à se concentrer, à être plus attentifs. Anne de Pomereux, dans votre livre « À la reconquête de l'attention », vous citez Lao Tzu, je le cite, « Un voyage de 1000 lieues commence par un pas ».
Ben voilà, c'est tout à fait ça. Donc, il faut avoir des grandes ambitions, le voyage de 1000 lieues, et des moyens ajustés, un pas à la fois. Et donc c'est ça qui va résoudre les problèmes. C'est très difficile à faire. Plus l'enfant, plus le jeune est accroché et dépendant de son téléphone, de ses jeux vidéo, etc., plus c'est compliqué, on est bien d'accord. Mais on ne va pas lui demander de tout changer d'un coup, donc essayer d'instaurer des bulles. C'est-à-dire peut-être des lieux dans la maison où il n'y a pas d'écran. Ça c'est possible. Une pièce. La pièce où on travaille, pas d'écran. Ou des moments. Ou les deux, voyez, et on peut agir comme ça petit à petit en instaurant des lieux, des moments et des périodes dans lesquelles les écrans ne pénètrent pas.
Et il est bon de louer les efforts déployés, le temps passé, la persévérance, la concentration. Bref, il est important de développer la motivation qui vient de soi, ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque.
Absolument.
Et il est important de récompenser l'effort. Et pas le résultat.
Exactement. Donc, aider les enfants, les jeunes, les adolescents à regarder non pas le résultat, la note, on a une espèce de fixette sur les notes qui devient vraiment aberrante, mais de les encourager, dire, ben voilà, t'as réussi à travailler 25 minutes sans écran, en ne faisant qu'une chose à la fois, mais c'est génial! continue, parce que ça, ça produira du fruit.
Et on peut marchander. Une séance de concentration et d'attention, sans interruption, pendant 25 minutes, 30 minutes, peut donner droit à un peu de jeu vidéo juste après.
Voilà, alors le problème, c'est le un peu de jeu vidéo.
Alors, oui, justement, je pense que ce qui est important, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le temps. Donc, du coup, il va falloir réapprendre aux ados à avoir une bonne perception du temps et en leur expliquant qu'ils peuvent faire attention par petite dose, puis plus, et puis aussi que le temps passé sur écran, ça paraît un temps très court, alors que le temps de travail paraît un temps très long, et il faut les réhabituer à cette notion du temps qui passe, qu'ils ont perdu en fait, en leur faisant chronométrer véritablement.
Et puis il faut les stimuler intellectuellement.
Oui, moi, je ne serais pas forcément enthousiaste à l'idée de la négociation, je te donne ça, tu me donnes ça, surtout que le temps de jeu vidéo, ils vous disent oui, t'inquiète, c'est juste un quart d'heure, trois heures après, ils y sont encore. Hyper compliqué de les sortir de là.
Et puis il faut les stimuler intellectuellement.
Voilà, mais surtout en fait, il faut leur parler, il faut les amener sur des sujets, il faut les aider à avoir des idées, à débattre, etc. Et leur donner envie de s'intéresser à des choses vraiment intéressantes, quoi. Et pas trop les juger sur leur comportement, parce que c'est vrai que c'est hyper amusant un jeu vidéo, donc en vrai c'est compliqué d'en sortir.
On consacrera d'autres émissions à la motivation et à l'attention des adolescents. Pour terminer, il est important, on l'a pas encore dit, de prendre soin de son corps, de méditer, de bien dormir, de faire du sport, de marcher, Sylvie Chocron.
Oui, bien sûr, donc on sait bien que l'activité physique, c'est aussi quelque chose qui dope nos capacités cognitives, donc c'est extrêmement important de pas oublier que on est une entité et que l'activité physique est liée à l'activité cognitive et que sur le plan cognitif, le réseau de l'attention, c'est aussi le même que celui des émotions, de la motivation, de la mémoire, etc. Donc il y a des points communs, donc il faut que tout ça fonctionne ensemble.
Un dernier conseil, Anne de Pomereux.
Courage.
Merci.
Et persévérance.
Merci infiniment, Sylvie Chocron. On peut lire avec profit Une journée dans le cerveau d'Anna. C'est publié chez Erol. Merci beaucoup, Anne de Pomereux. Pour bien commencer la rentrée, je vous conseille vraiment la lecture d'À la reconquête de l'attention. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Et on peut vous retrouver sur votre site apprendre-et-transmettre.com. Vous pouvez podcaster et réécouter cette émission sur l'appli et sur le site de France Inter. Faites-la réécouter à vos enfants et à vos adolescents. Demain, avec le mensuel Philosophie Magazine, comment accepter sa fragilité dans un monde de brutes? Vous pouvez poser vos questions et témoigner en laissant d'ores et déjà un message ou une note vocale sur l'appli France Inter.